Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez tous les jours sur France Culture, en tout cas du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Maïder Gérard, Margot, Mélanie Chalandon et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Swad Boukorsa. Dernier temps de notre semaine que nous consacrons aux personnes LGBT+, et à l'inscription de leur intimité dans les champs politiques, géopolitiques, sociaux, culturels. Lundi, nous parlions des droits civils en Europe au prisme du clivage Est-Ouest. Mardi, nous parcourions le continent africain où la répression d'État sévit encore dans nombre de pays. Hier, c'est le militantisme, 50 ans après les émeutes de Stonewall qui nous occupaient. Aujourd'hui, place à notre dernier sujet. Existe-t-il une culture lesbienne? Existe-t-il une culture gay? C'est les questions que nous allons nous poser ce matin dans Culture Monde.
Je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi, je suis.
J'ai toujours été pareil, j'ai jamais changé, mais juste en fait, le physique en fait, qui a un peu shifté, a ramené beaucoup, beaucoup de haine. Je peux pas dire que je comprends pas, parce que c'est un peu logique ce qui s'est passé, parce qu'on vit dans une société où il y a encore beaucoup beaucoup de trucs à régler par rapport à ça. Les critiques ne me blessent pas vraiment, parce que c'est des messages que j'ai déjà reçus dans la vraie vie quand j'étais plus jeune. Depuis que je suis tout petit, j'ai été confronté à des expériences qui m'ont forgé. Et donc aujourd'hui, avoir des méchants commentaires, c'est pas grand chose. Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est ouvrez-vous et respirez un coup, et vous allez voir que je ne vous fais rien de mal. Personne dans la communauté LGBT ne fait de mal à personne. On vit notre vie tranquillement.
Quand je rêve, je suis à moi.
Bilal Hassani, qui représentera la France lors de la prochaine édition de l'Eurovision qui se tiendra à Tel Aviv dans quelques jours. Un jeune homme qui n'hésite pas dans ses performances à porter des perruques, à se maquiller, jouant des frontières et des codes classiques de la masculinité et de la féminité. Bilal Hassani, une figure typique de la transgression des normes de genre habituelles. Bref, une nouvelle icône queer qui s'assume, ce qui lui vaut d'ailleurs de violentes attaques homophobes. Il semble que ces dernières années, on assiste à une multiplication de ces figures queer, ou plus largement LGBTQI+, sur la scène artistique, médiatique, culturelle. Alors faut-il y voir le signe que ce mouvement LGBTQI+ est en train de devenir une culture? D'ailleurs, existe-t-il une culture queer, comme il existerait une culture gay ou une culture lesbienne? Comment une orientation sexuelle pourrait se faire identité culturelle? Comment l'homosexualité féminine ou masculine pourrait devenir un support de valeurs, de goûts et de représentations? Et comment celles-ci se trouvent mises en commun au point de devenir une culture? Pour évoquer toutes ces questions, bonjour Natacha Chetkouti-Ossorovitz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, enseignante-chercheuse à Centrale Supélec et à l'ENS Paris-Saclay, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je citerai « Se dire lesbienne », on va en parler dans cette émission. À nos côtés, mais depuis Toulouse, Jérôme Courdiriès, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, maître de conférences à l'université de Toulouse Jean Jaurès, auteur vous de « Être en couple gay » qui était paru aux presses universitaires de Lyon. On commence un peu à être habitué. Tiens, je vais commencer avec vous, Jérôme Courdiriès, à ce genre de figure queer comme Bilal Hassani. D'ailleurs, il y a quelques années, en 2014, le concours de l'Eurovision avait été remporté par une figure qui mélangeait aussi les codes de genre, Conchita Wurst. Il y a évidemment de très nombreuses figures qui sont un peu dans cette lignée. Je pense à la chanteuse Bette Ditto, je pense à la chanteuse américaine LP, je pense aussi pourquoi pas à Christine and the Queens, qui maintenant est Chris. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Bilal Hassani ou de Conchita Wurst, c'est qu'on dirait que ces figures ont trouvé dans l'Eurovision un espace particulièrement propice à l'expression de leur transgression. C'est intéressant de voir comment l'Eurovision est devenue la nouvelle scène queer d'une certaine manière, Jérôme Courdiriès.
Oui, c'est assez intéressant. Moi, ce que je relève surtout, c'est que ces deux figures que vous citez, Conchita Wurst et Bilal Hassani, sont des figures qui mettent en œuvre une transgression qui est parmi les plus impensables. Ce sont des gens que l'on perçoit comme étant des hommes ou des garçons qui font le choix de renoncer aux signes extérieurs de la masculinité pour arborer des signes extérieurs de féminité, souvent exacerbés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à accepter dans nos sociétés.
Natacha Chetkouti-Ossorovitz, cet accroissement, si accroissement il y a, de la visibilité justement des queers et plus largement des LGBT+, est-ce que c'est le fruit d'une meilleure acceptation de la société, du public, du mouvement queer, ou est-ce que c'est aussi peut-être le fruit de la construction aussi d'une communauté queer forte, désormais formalisée, et tout cela aboutirait in fine à une plus grande visibilité? Ou les deux.
Moi, je sais pas si on a. En fait, je suis pas sûre qu'on assiste à une plus grande visibilité. D'abord, je serais un peu.
Pardon, mais si vous vous souvenez des premiers concours de l'Eurovision, c'était beaucoup plus sage, si je puis dire les choses ainsi, que ça l'est aujourd'hui.
Bon, mais si je suis très honnête, je n'ai pas vraiment beaucoup regardé l'Eurovision dans ma vie. Mais donc c'est vrai que c'est pas forcément un mode de référence sur lequel je vais m'appuyer, mais je pense que je suis assez critique de l'usage de l'acronyme LGBTQI et l'appellation queer, qui est encore une autre, je trouve, qui renvoie justement à une autre culture. L'appellation queer, elle renvoie à un positionnement politique, à une culture justement de genre, à une culture critique des systèmes politiques de genre, et qui est différente de la production culturelle qui en est donnée sur les grandes chaînes médiatiques ou sur un spectacle comme l'Eurovision. Mais vraiment, je maîtrise pas bien l'Eurovision. Et sur la question LGBTQI, je pense que ça quand même renvoie à des réalités différentes, à des cultures différentes. Donc je suis pas sûre qu'on puisse parler, mais je sais pas ce que dira Jérôme, mais d'une culture LGBTQI. Une culture queer, sans doute, mais une culture LGBTQI, je suis pas sûre.
On va revenir à cette question parce qu'évidemment, on va l'aborder de front, mais avant, peut-être un tout petit mot, Jérôme Courdurias, sur la construction de ce qu'on appelle souvent des icônes gays. On verra d'ailleurs s'il existe peut-être des icônes lesbiennes, mais il y a énormément de figures artistiques dont on a dit qu'elles étaient des icônes gays. Alors, je pense évidemment à Dalida, mais je pense aussi à Madonna, je pense à Cher, je pense à Gloria Gaynor, à Mylène Farmer aussi en France. De quoi est-ce qu'on parle, Jérôme Courdurias, quand on parle d'une icône gay? Et comment est-ce qu'on devient une icône gay, finalement, Jérôme Courdurias?
Alors, écoutez, bien malin qui pourrait répondre à cette question, mais non, ce que... Vous savez, je pense souvent, quand on réfléchit à ce genre de questions, à un sociologue qui, malheureusement, est mort prématurément, Michael Pollack, et qui avait publié un texte début des années 80, 84, si je ne me trompe pas, mais peut-être un peu plus tôt, Le bonheur dans le ghetto.
82,
ouais, c'est ça. Voilà. Et qui décrivait déjà ceci, et qui soulignait, à propos notamment de la figure de Marilyn Monroe, comment elle continuait, malgré les années qui avaient passé depuis sa disparition, à incarner une forme d'idéal ou de figure idéale typique chez les homos, comme on disait à l'époque. Hein. Et je pense que c'est probablement lié à cette incarnation. Vous citiez Dalida tout à l'heure, Madonna peut-être, je me souviens plus si vous l'avez cité.
J'ai cité.
Une incarnation d'une féminité qui revendique une certaine forme de liberté, d'autonomie par rapport à la gente masculine. Et je pense que c'est une aspiration que partage un certain nombre de gays, probablement. C'est une partie de l'explication, il y en a certainement d'autres auxquelles je ne pense pas.
Natacha Chetkouti-Ossorovitz, est-ce qu'il y aurait des icônes lesbiennes qui ne seraient pas aussi des icônes gays?
Oui, je pense. En préparant cette émission, justement, je me suis un peu penchée, notamment d'ailleurs sur un numéro de la revue Well Well Well, qui fait partie de la culture lesbienne contemporaine et qui a consacré un numéro justement aux icônes lesbiennes. Et c'est vrai que, et puis voilà, quand on regarde un peu tous les récits autour, qu'est-ce que c'est qu'une icône? D'abord, je pense que l'icône, c'est quoi? C'est une figure emblématique qui renvoie quand même à des formes émancipatrices. Et en ce qui concerne la culture lesbienne, elle joue un rôle. Ces icônes vont jouer un rôle fondamental dans la construction des lesbiennes, parce que ce qu'il y a de particulier dans l'histoire des lesbiennes, c'est qu'elles sont souvent invisibles, ou alors renvoyées à une culture de la sexualité masculine via la pornographie, par exemple. Et du coup, la figure iconique, elle va devenir une figure de projection, d'idéalisation, voire même de désir, pour répondre à l'hégémonie hétérosexuelle, mais aussi pour répondre au dispositif hétérosexiste. Et je pense que l'icône, elle est un lieu de projection, mais aussi un lieu de langage. Quand on parle de culture, on parle aussi d'une langue. Et je pense que ce qui qualifie la société, la culture hétérosexuelle, c'est qu'elle se présente comme quelque chose qui va de soi. En gros, tout le monde est hétérosexuel, sauf à prouver le contraire. Et la figure des icônes, elle vient aussi contrecarrer à la fois ce langage de l'hétérosexualité, parce que c'est important, une culture minoritaire, elle se construit aussi dans un langage. Mais aussi pour, Jérôme tout à l'heure parlait des questions des dispositifs de genre, et je pense qu'ils vont se traduire différemment dans les cultures gays et lesbiennes, parce qu'aussi la question des rapports sociaux de domination n'a pas la même construction. Alors en icône, moi j'ai pensé, par exemple, à Mireille Havé. Mireille Havé, qui est une auteure, une écrivain française, qui a été dans le groupe des avec Jean Cocteau, Colette, Apollinaire, etc., dans les premiers surréalistes, qui a été découverte assez récemment, puisqu'elle a écrit un roman qui s'appelle Carnaval, qui a été publié en 92 et ensuite aux éditions Clairpoyant, et elle décrit tout le Paris lesbien des années 20, mais plutôt du milieu populaire. Et qui est une autre culture lesbienne que celle que l'on connaît mieux quand on pense à couple Colette et Mathilde Morny, on pense évidemment à Joanna Barnes, on pense à tous ces salons littéraires des années 20, mais qui font aussi partie de la culture lesbienne. Un autre couple qui a été important, mais qui est toujours emblématique, je trouve, c'est le couple Claude Cahun-Marcel Moore. Et pourquoi il est important? Parce que leur travail sur les textes, sur leur photographie, là aussi dans cette époque surréaliste, au fond, crée une écriture et une photographie, une image du pas de côté. C'est-à-dire une figure androgyne, une figure... Mais aussi, Cahun, par exemple, elle va briser l'icône de la femme, et quand je dis la femme, c'est évidemment dans une critique très essentialisante, dans une œuvre d'image, photographique, d'écriture, qui va composer, je dirais, un travail hybride et engagé. Par exemple, dans son ouvrage Héroïne, elle détruit toutes les figures, toutes les mythes autour des femmes. Donc, elle vient contrecarrer l'esthétique des femmes. Donc, elle invente une nouvelle esthétique. Et ça, je pense... Alors après, plus près de nous... Ah oui, si, quand même, une autre figure...
Allez, c'est, dernière.
Une dernière, mais après j'en donnerai juste deux autres contemporaines. Mais une autre qui est quand même, qui fait partie de l'histoire lesbienne, c'est Radcliffe Hall, avec le Puits de Solitude et Stéphane, qui est l'héroïne, qui présente une femme plutôt masculine.
Mais donc, si je résume, il existe des icônes lesbiennes qui ne sont pas forcément des icônes gays, et donc il existerait une culture lesbienne qui ne serait pas la même que la culture gay.
Je pense, oui.
Oui, c'est votre avis.
Oui.
Jérôme Courduriès, on s'interroge là ce matin pour savoir s'il existe cette culture gay, cette culture lesbienne, et visiblement, en tout cas, Natacha Chetkouti Osorovitz, a l'air d'aller plutôt dans ce sens. Je voudrais m'appuyer sur un ouvrage intéressant qui avait fait date au début des années 2010, c'était en 2012 exactement, aux États-Unis, qui s'intitulait « How to be gay », un ouvrage de David Halperin, qui est un historien des sexualités, un théoricien queer, un professeur à l'Université de Michigan, et lui, il partait de l'hypothèse que l'homosexualité serait une façon spécifique d'appréhender le monde, et alors, il se demandait comment est-ce qu'on devient gay, et à travers ce livre, qui est à la fois un mélange, une forme d'analyse historique, sociale, sociétale, des identités sexuelles, mais qui est aussi le fruit aussi de sa propre expérience, de ses propres référentiels culturels. Il y évoque évidemment ses films cultes, ses chanteurs, ses chanteuses fétiches. Et pour lui, avoir des pratiques homosexuelles ne suffit absolument pas pour acquérir ce qu'il appelle une sensibilité gay, gay sensibility, ou une subjectivité gay, gay subjectivity. Il faut passer par un processus d'apprentissage et par une certaine expérience. Finalement, si on résumait les choses, ce qu'il dit, c'est qu'on ne naît pas gay, mais on le devient, pour reprendre évidemment la formule de Simone de Beauvoir à propos des femmes dans le deuxième siècle. Vous êtes d'accord avec cette idée? On ne naît pas gay, on le devient, et donc, effectivement, il y a bien une culture gay derrière.
Ouais, je suis assez d'accord avec cette proposition, qui avait été aussi celle de Michael Pollack, d'ailleurs, début des années 80. Ouais. Et
lui avait dit, on ne naît pas homosexuel, on apprend à l'être. On est tout proche,
La formulation est un peu différente. Mais je crois que ça souligne la même chose. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est moins... Ils parlent moins, évidemment, de l'origine du désir homosexuel que de l'apprentissage d'une forme d'homosexualité en tant qu'identité propre à soi-même. Et partagée, éventuellement, avec un certain nombre d'autres gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dater très facilement. Enfin, Michel Foucault nous l'a fait bien avant nous. Grosso modo, ça date de la naissance de l'intérêt de la sexologie, de la psychiatrie pour ce qu'on appelait à l'époque les perversions sexuelles. Et donc, en gros, milieu 19e siècle. Cependant, c'est vrai que quand on me pose cette question et quand j'ai réfléchi un peu à cette émission, je me suis dit qu'il y avait aussi d'autres formes d'appartenance, indépendamment de la communauté gay ou lesbienne, mais qui peuvent aussi croiser cette appartenance gay ou lesbienne. Ce sont les classes sociales et les appartenances de genre. Natacha y faisait allusion tout à l'heure, à propos des couples qu'elle citait et qui avaient trouvé un écho plus grand, peut-être dans la culture populaire ou dans la culture plus mainstream. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important et auquel on ne pense pas suffisamment aujourd'hui. Le communisme est peut-être en difficulté depuis un certain nombre de temps, mais les classes sociales n'ont pas disparu pour autant. On le voit aujourd'hui dans l'actualité. Et ça, c'est quelque chose de déterminant.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que, d'une certaine manière, l'identité gay, l'identité lesbienne se construit de manière différente selon si on appartient, disons, à la classe favorisée ou selon si on appartient à la classe populaire ? C'est ça que vous sous-entendez ?
Ouais, je pense en partie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de commun à tout ça. Je pense que l'expérience de l'homosexualité, parmi d'autres expériences de minoritaires, participe à construire une communauté, je ne sais pas qu'on pourrait appeler d'une communauté de destin ou d'expérience, très certainement. Mais à l'intérieur de cette communauté de destin ou d'expérience, une communauté gay, une communauté lesbienne, il y a très probablement d'autres courants, d'autres influences qui partagent les personnes et qui sont liées à la socialisation de genre ou à la socialisation de classe sociale. Pour le dire un peu de manière rapide, eh bien, il est plus probable qu'on est sensible à l'opéra dans des classes sociales où on a été éduqué à cela, et qu'on l'est un peu moins, probablement, dans les classes ouvrières. Je suis un peu caricatural, mais c'est pour donner à voir un petit peu ce que je veux dire.
Natacha Chetkouti-Osorovitz, cette question de l'articulation, au fond, entre l'identité sexuelle et l'identité sociale, c'est quelque chose qu'on voit aussi assez clairement dans un film, La vie d'Adèle, où là, évidemment, il est question de la construction de l'identité lesbienne, qui s'oppose avec des résistances bien plus fortes dans les classes populaires que dans les classes supérieures. Il est beaucoup plus facile de faire accepter son homosexualité quand on est une jeune étudiante en art plastique que lorsqu'on est une jeune lycéenne lilloise des classes populaires. C'est exactement ce qu'on voit dans le film d'Abdelaziz Kechiche. Ça veut dire que devenir lesbienne, ça dépend de la classe populaire à laquelle on appartient. Et donc l'identité lesbienne dépend de son identité sociale aussi.
Bon, moi je trouve que ce film, il était assez intéressant, mais il est un peu caricatural quand même dans sa manière de traduire l'effet de classe sur les parcours de nomination de soi en tant que lesbienne ici dans ce film et dans les modes de reconnaissance ou d'intégration. Avec un autre collègue que connaît Jérôme, Gabriel Girard, nous avons travaillé justement où on a essayé de comparer les parcours gays et lesbiens dans une articulation classe sociale et genre. Ce dont on s'est aperçu, c'est que au fond, dans le modèle actuel, les classes moyennes, au fond, sont un peu définies par l'idée d'une idéalisation démocratique qui passe par l'intégration des couples gays, lesbiens. Ce sont aussi ces classes-là qui ont pu porter les revendications autour du mariage pour tous, autour de la question des droits reproductifs, etc. Mais intégration qui passe d'ailleurs par le couple, qui passe pas forcément par la nomination de soi en tant que lesbienne, par exemple. Il est très différent de dire « je suis lesbienne » qui pose une catégorie sociale en soi, avec les effets sociaux que ça peut supposer, que de dire « je suis dans un couple de femmes », ça n'a pas du tout les mêmes effets sociaux. Et en fait, là où on remarquait, Gabriel Gérard et moi, qu'il y avait, là où il y avait plus de résistance, c'était dans les classes populaires. Il pouvait y avoir des résistances dans les classes populaires, mais aussi dans les classes supérieures. Les classes supérieures n'étaient pas la garantie d'une intégration des couples en question. À cela, il faut conjuguer la question aussi des valeurs sur l'échiquier politique, mais aussi la question des degrés d'appartenance religieuse.
Et est-ce que vous diriez, pardon de vous couper, est-ce que vous diriez, je la pose vraiment en question, que l'identité sociale, il y aurait une forme d'effacement de l'identité sociale à mesure que l'on se construit son identité sexuelle?
À savoir,
c'est-à-dire qu'au fond, intégrer d'une certaine manière la communauté lesbienne, la culture lesbienne, produit une forme d'effacement de son origine sociale?
Ah non, non, moi je pense pas ça. Mmh. Ah non, 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 je pense pas qu'appartenir à une communauté culturelle efface les appartenances de classe, mais pour n'importe quel individu, on est quand même, on n'est pas totalement déterminé, mais quand même on est façonné par ces appartenances de classe dans les manières aussi de se traduire, mais pas de se traduire et de se nommer. Et la question de la nomination de soi, même si l'on appartient, je dirais que même si l'on appartient à une culture lesbienne revendiquée, elle permet au fond de se construire dans une identification positive, elle permet d'avoir des repères culturels communs, mais ça peut être, tout à l'heure on a évoqué, on a commencé à évoquer la question des icônes culturelles partageables, mais ça peut être aussi la fréquentation de bars, ça peut être la fréquentation de lieux de loisirs, je pense il y avait à un moment donné des groupes de lesbiennes qui jouaient au foot, ça fait partie aussi voilà, d'une socialisation culturelle, ça n'efface pas pour autant les effets de classe et les effets de discrimination de classe.
Qui sont évidemment toujours là. Voilà. Jérôme Courdurias, je vais vous donner la parole, mais avant je vais vous faire entendre peut-être un petit extrait. C'était il y a quelques jours, vous avez sûrement entendu cette polémique qui est venue de l'humoriste Pierre Palmade, qui établissait une différence entre gay et homo dans une émission récente, On n'est pas couché. On va l'entendre et ensuite je vous ferai réagir.
Non, je vais y aller de ma petite théorie où je dis, il y a les homos et les gays. Et c'est deux... Schématiquement, je me suis fait deux schémas, et c'est vrai que les
hommes... Alors, j'avais jamais pensé à cette
distinction. Oui, j'ai fait une différence, et les gays, c'est des gens qui mangent gay, qui rient gay, qui vivent gay, qui parlent gay...
Qui pas gay.
Qui font du film gay. Et qui pas gay. Et les homos, ce sont des gens qui sont homos, mais c'est pas marqué sur leur front, on le sait pas quand ils parlent, on le sait pas quand ils vivent. On ne le sait que quand on va dans leur chambre à coucher.
Voilà, donc extrait de l'émission On n'est pas couché. Alors le lendemain, certaines associations LGBT, SOS Homophobie par exemple, ou Urgence Homophobie ont qualifié ses propos d'homophobes. Alors Pierre Palmade s'est défendu en disant qu'il avait mis carte sur table depuis longtemps et qu'il avait affirmé son homosexualité depuis longtemps et que c'était difficile de lui faire ce procès-là. Comment est-ce que vous interprétez, Jérôme Courdurias, cette polémique? Est-ce que ce qu'il y a derrière ce propos... Peut-être maladroit, mais c'est aussi précisément l'idée qu'on est en train de discuter aujourd'hui, à savoir est-ce qu'il existe ou pas une culture gay à laquelle finalement tous les homosexuels n'adhéreraient pas. Et est-ce qu'il faut comprendre que la polémique est aussi la révélation que cette question est particulièrement sensible, discutée dans la communauté homosexuelle même?
Oui. Évidemment, c'est une question très sensible et discutée, et on le comprend dans le compte tenu du contexte dans lequel on vit. La communauté gay, si elle existe en tant que telle, ou lesbienne, hein, a tout intérêt à rester soudée face aux attaques dont les gens sont victimes. Et ces attaques, elles sont de plus en plus fortes. La parole homophobe et les actes homophobes se sont libérés depuis au minimum 2012, hein, depuis les polémiques autour du mariage pour tous, hein, qui ont libéré une parole homophobe d'une façon quasiment sans précédent depuis 25 ans. Et donc dans ce contexte-là, évidemment, qu'une figure médiatique, hein, puisse séparer d'un côté les homos qui se caractériseraient seulement par une sexualité tournée vers les personnes du même sexe, hein, et de l'autre des gays dont l'identité gay traverserait toute l'expérience quotidienne, c'est absolument insupportable pour un certain nombre d'acteurs politiques. Ensuite, je peux pas dire est-ce qu'il est homophobe ou pas, est-ce qu'il a intériorisé une forme d'homophobie, certains le pensent, d'autres non. Peu importe, il est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'en tant que personnalité publique, qui s'exprime dans les médias, il a une forme de responsabilité particulière que je n'ai pas lorsque je fais mes courses au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il y a certainement de juste dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui adhèrent plus ou moins à l'idée d'appartenir à une communauté de destin, à une communauté d'expérience, la communauté gay, la communauté lesbienne ou à une communauté culturelle. Et probablement que lui fait partie des gens qui y adhèrent un peu moins. C'est sa liberté, bien entendu. Cependant, je le trouve un peu caricatural. Je ne suis pas sûr, et je ne pense pas qu'on puisse dire que les gays seraient ceux qui mangent gays, vivent gays, pensent gays, etc. Non, pas du tout. Les gays sont comme les autres. Ils sont traversés par les mêmes préoccupations écologiques, économiques, politiques, peu importe où ils se placent dans l'échiquier. Avec en plus un souci d'aspirer à une forme d'égalité croissante ou à une forme d'indifférence, diront certains, ouais. Ça c'est sûr.
On va revenir sur cette question qui est très intéressante, sur les aspirations justement, parce que peut-être qu'elles ont quand même évolué, même si ce sont les mêmes que les autres, dites-vous, mais peut-être qu'elles ont quand même évolué, mais on y reviendra. Natacha Chetkouti-Ossorovitz, je vous laisse réagir librement à cette polémique, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on voit bien qu'il y a une forme de difficulté à dire qu'il existe une culture lesbienne, une culture gay, parce qu'on voit bien évidemment que c'est un geste un peu essentialisant, et donc on a toujours un petit peu de difficulté, de frilosité justement à se lancer dans ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qu'on sait en France, c'est qu'on a un petit peu du mal avec l'idée de communautarisme, on lui préfère l'universalisme républicain. Est-ce qu'au fond, c'est pas aussi ça qu'il y a derrière, c'est-à-dire une forme de frilosité particulière, spécifique pour le coup à la culture française, à parler de communauté culturelle de, et donc de communauté homosexuelle, et donc d'accepter peut-être l'existence d'une culture lesbienne, d'une culture gay?
Ah mais absolument, ça je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, d'abord moi je pense pas que... je pense qu'il existe une communauté hétérosexuelle. Que la société hétérosexuelle est fondée sur une communauté qui a ses codes, ses références, par exemple dans le cinéma, qui produit un rappel sans cesse de ce que doit être un homme, une femme, de ce que doit être le couple homme-femme. La production culturelle est une production de la communauté hétérosexuelle, mais qui se présente effectivement comme universelle, et je pense que la contre-culture, et je ne parlerai pas de la contre-culture au singulier, les contre-cultures en fait, les cultures lesbiennes, parce qu'effectivement elles vont être aussi différentes selon les époques, selon les contextes politiques. Par exemple, les cultures lesbiennes des années 80, qui ont été quand même très très importantes, se sont fondées sur l'expression de tout un tas d'existences, des centres d'archives lesbiennes à Paris, de cafés, de littérature, d'expressions politiques. Je pense que par exemple, ce qui définit, on va dire, les cultures lesbiennes dans leur diversité, c'est quand même un fort ancrage aussi avec le féminisme. Donc, alors ça peut-être Jérôme pourra parler aussi des cultures gays, du rapport au féminisme, mais je crois que ça c'est fondamental dans justement l'analyse du dispositif de l'hétérosexualité. Donc, ces cultures lesbiennes, elles sont plurielles. Je suis pas sûre qu'elles aient un caractère essentialisant si on les prend dans cette pluralité, ouais, et si on les comprend dans leur contexte sociopolitique. Et peut-être je me suis c'est ça. Mais elles répondent effectivement, c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'elles répondent justement à ces formes disqualifiantes que produit la culture hétérosexuelle majoritaire.
Alors, Jérôme Courduriès, si on parle d'hétérosexualité, on parle aussi d'homosexualité. Intéressons-nous au terme même, au mot même, et faisons un tout petit peu d'histoire. Le terme homosexualité, la notion qu'il définit derrière, sont apparus en français à la fin du 19e siècle. Il avait été introduit en langue allemande d'abord par l'écrivain hongrois Karl Maria Kernbeny à la fin des années 1860. Avant cela, évidemment, les pratiques sexuelles en elles-mêmes étaient parfaitement connues et reconnues, mais on n'y associait pas vraiment de mots particuliers. Qu'est-ce que l'invention du terme homosexualité va changer en termes de construction d'identité? Parce qu'à partir du moment où on parle d'homosexualité, on crée de facto un groupe de personnes homosexuelles et donc possiblement des identités sexuelles, homosexuelles.
Ouais. Ouais, non, ce que change la création du terme homosexualité, c'est absolument fondamental. Il ne faut pas oublier, vous l'avez rappelé, qu'il est né dans le contexte allemand. Et il est né sous la plume de gens qui avaient un objectif politique aussi. Ils étaient certes sexologues, psychiatres, écrivains, mais ils avaient aussi un objectif politique qui était de lutter contre la stigmatisation légale de l'homosexualité. Et à cette époque, la catégorie psychiatrique apparaissait comme une ressource. Le problème, c'est que dans les années qui ont suivi, les décennies qui ont suivi, la situation s'est inversée, c'est-à-dire que la psychiatrie qui s'était emparée de cette question de l'homosexualité a conduit à la création d'un dispositif, un nouveau dispositif d'oppression de l'homosexualité et des homosexuels, contre lesquels les gays, les lesbiennes, les LGBT ont dû se mobiliser au cours du XXe siècle, particulièrement dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour s'en défaire. Mais c'est à partir de cette époque que le fait d'être d'avoir une expérience sexuelle minoritaire a commencé avoir des effets sur l'émergence d'une identité homosexuelle.
Ça, c'est
Michel Foucault en particulier qui l'a montré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un mot a commencé à exister, eh bien, les gens ont pu commencer à se reconnaître dans une identité homosexuelle, se définir en tant qu'homosexuel, dans un contexte où la sexualité a commencé à être déterminante dans la définition de l'identité de chacun. Et on le voit dans la littérature émergente, sur ces questions. Je pense à la littérature classique, Proust, mais aussi à d'autres formes d'expression littéraire, qui font exister progressivement des figures d'homosexuels, d'invertis, disait-on souvent à l'époque encore, qui commencent à faire exister sur la scène publique et dans les récits culturels des figures d'homosexuels qui commencent à offrir des modèles alternatifs à la socialisation de genre classique.
Natacha Chetkouti Osorovitz, même travail avec le mot lesbienne. Quand est-ce qu'il apparaît? Est-ce qu'il apparaît lui aussi au départ dans le champ de la sexologie et puis de la psychiatrie, comme c'est le cas du terme homosexualité? Et comment est-ce qu'au départ, on définit tout simplement le mot lesbienne? Qu'est-ce qu'on entend par là?
Alors, il y a une différence effectivement entre le terme homosexuel et lesbienne. Le terme homosexuel, il renvoie plus à des références, des catégories plus normalisantes. Justement, en les situant dans tout ce langage du 19e siècle qui renvoie donc à un catalogue aussi de pratiques sexuelles non conformes à la sexualité reproductive. Ce terme lesbienne, on le voit dans les premiers écrits que je citais tout à l'heure, dans les années 20, dans ces écrits-là, dans cette littérature-là, le mot lesbienne apparaît, mais il est quand même un terme encore de l'entre-soi, et il va avoir une tonalité politique dans les années 70. Il va être utilisé comme une catégorisation politique, justement pour contrecarrer le terme d'homosexualité qui renvoie à l'époque à une terminologie plus médicale, plus stigmatisante et plus normalisante. Et je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans le contexte contemporain, le terme lesbienne est un terme plus mainstream, qui fait partie plus du langage courant, alors que le terme Gwyn, par exemple, va être utilisé par les groupes politiques pour renverser la question de l'usage du stigmate. Donc c'est aussi ça les positionnements culturels, c'est aussi des positionnements de défiance face à la norme.
Mais qu'est-ce qu'on rejette quand on rejette le terme lesbienne ?
Aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans le contexte, pour certains groupes militants, c'est l'idée qu'aujourd'hui, ce terme lesbienne, en fait, fait partie du langage courant et qu'il a perdu de sa tonalité politique. Alors que le terme Gwyn, qui est une insulte, en se réappropriant ce terme-là, c'est une manière, là aussi, de le vider de l'insulte, mais d'y donner une vigueur politique.
Mais est-ce que ce qu'on rejette pas, c'est pas aussi l'idée que derrière le terme lesbienne, il y aurait cette idée qu'au fond, ça serait le masculin à l'envers, et donc on ferait référence d'une certaine manière à un cadre hétéronormatif, et que c'est aussi ça qu'on rejetterait,
alors ça, j'ai jamais entendu cette interprétation.
Non, je sais pas.
Mais pourquoi pas? Mais
non, je sais pas, je pose la question.
Non,
parce que je crois que je sais plus si c'est sous votre plume ou sous une autre, peu importe, mais j'ai compris qu'au départ, il y avait plusieurs catégories de lesbiennes, les invertis et les saphiques, et que derrière tout cela, il y avait aussi une certaine représentation qui peut-être à un moment politiquement a été rejetée, c'est ça que je veux dire.
Ah, d'accord. Non, tout ce modèle du 19e reposait sur l'idée qu'il y avait la vraie et la fausse lesbienne. En gros, la vraie lesbienne, c'est celle qui avait les représentations, les caractéristiques d'une masculinité, la fausse, celle qui serait féminine. Mais représentation qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire ces représentations du 19e siècle
n'ont pas perdu. Avec de nouveaux mots, on parlait de nouveaux mots.
Leur vigueur. Oui. Alors, justement, à l'intérieur de la culture lesbienne, il y a des termes différents pour se qualifier.
Lesquels ?
Alors c'est ça les cultures. Par exemple, les termes butch et femme. Butch ne signifie pas justement adopter une masculinité ou vouloir ressembler à des hommes. Mais c'est au contraire, ça s'inscrit dans un processus de déshétérosexualisation pour le coup, c'est-à-dire dans l'idée de mettre à distance la question de la médiation de l'hétérosexualité et de la domination masculine, et de se réapproprier, mais d'une manière à la fois... d'ailleurs, il y a une intentionnalité érotique aussi dans cette réappropriation. Mais de se réapproprier de ce qui serait considéré dans la société majoritaire comme masculin. Idem pour femme, qui est une mise à distance de la féminité dans un registre de réappropriation de codes de féminité au pluriel. Mais en fait, ce qui est fondamental dans ces codes-là, qui justement font partie d'un code de langage et d'un langage aussi de présentation de soi, c'est le fait de ne plus avoir comme média ou comme adresse le groupe des hommes ou en tout cas être régulé par la domination masculine. C'est échapper à ce contrôle.
Jérôme Cordurièse, il y a évidemment des moments particulièrement importants dans l'imaginaire de la communauté homosexuelle, notamment les moments de lutte. On parlait par exemple hier des émeutes de Stonewall de 1969, qui ont évidemment marqué un temps extrêmement fort pour les militantismes LGBT. Il y a d'autres moments, il y a la lutte contre l'épidémie de SIDA-VIH. Jusqu'où justement ces luttes ont-elles participé à la construction de cette communauté destin? C'est vous qui utilisez cette formule tout à l'heure. Donc peut-être de l'émergence d'une culture gay, d'une culture lesbienne. Et est-ce que par conséquent, ça fait beaucoup de questions, mais on va avoir peu de temps pour les décrire, pour décrypter tout ça. Et est-ce que par conséquent, la culture gay, la culture lesbienne, n'existe que lorsqu'elle s'inscrit dans une logique de lutte?
Je pense que prendre en compte le contexte politique, Natacha l'a beaucoup rappelé, est absolument fondamental en effet. Ce n'est pas un hasard si on voit émerger un discours queer particulièrement saillant dans l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort, mais il est plus visible en tous les cas ces dernières années. C'est pas un hasard non plus si au moment des années 80, en plein dans l'épidémie au cœur de l'épidémie du sida, au pic de l'épidémie du sida, milieu des années 80, début des années 90, c'est pas un hasard si là, on voit les mouvements politiques autour de l'homosexualité se recomposer, se dissoudre pour certains, et se recomposer, et où on voit émerger de nouveaux messages politiques, de nouvelles mobilisations, et là, essentiellement autour de la reconnaissance de la conjugalité et beaucoup plus tard, fin des années 90, la reconnaissance d'une forme d'homoparentalité. Les deux sont très liés, je pense. Mm-hmm. Et c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure, mais que j'ai oublié en cours de route. Ce qui me semble particulièrement important, et d'autres auteurs l'ont montré depuis longtemps, c'est que les communautés gays, lesbiennes ou LGBT, selon les termes que l'on retient, mais qui ont du sens, émergent pour réagir, pour permettre aux gens de réagir à un dispositif sociologique qui les met en situation d'infériorité ou de minorité. Ce sont des ressources supplémentaires pour les gens. C'est-à-dire que dans des moments de sa vie où on craint que sa propre homosexualité, sa propre expérience homosexuelle puisse nous mettre à l'écart des modes de sociabilité traditionnels, la famille, les amis, le milieu professionnel, eh bien, le fait de se construire, d'appartenir à une communauté gay ou lesbienne, par exemple, offre des ressources complémentaires. On y trouve là des modèles qui ne sont pas disponibles dans les productions culturelles ordinaires, qui sont très marquées par une forme d'hétérosexisme et par l'absence de pluralité de figures. Donc, vous avez raison de souligner ça. Je pense que les deux sont absolument liés, le contexte politique et l'émergence ou le renforcement d'une communauté gay ou lesbienne.
Natacha Chetkouti-Ossorovitch, sur cette question, si l'identité gay, lesbienne se construit en grande partie à travers les luttes, et compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées législatives institutionnelles pour ces communautés, même si évidemment il reste fort à faire, j'en conviens. Mais le fait qu'il y ait des avancées, est-ce que ça a eu pour effet d'affaiblir d'une certaine manière la cohésion de ces communautés? Et peut-être une forme d'affaiblissement des cultures qui vont avec.
C'est une très bonne question. Je pense que, en fait, l'histoire de ces cultures et de ces mouvements politiques, c'est pas construite dans les mêmes temporalités et dans les mêmes préoccupations. Moi, je pense que le clivage est important à partir des années 80. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, effectivement, il y a eu toute la question du sida qui a marqué une partie du militantisme gay-lesbien Et gay. Et il y a un autre courant, hein, qu'on va qualifier de lesbien politique, qui lui s'est séparé du féminisme et dans une volonté non pas de se normaliser. C'était pas du tout un mouvement lié à la question des droits, hein, mais plutôt dans un positionnement de bouleversement, de subversion du système hétérosexuel. C'est-à-dire la base, c'était la question du régime politique de l'hétérosexualité. Dans les années 90, on assiste effectivement à toujours cette culture lesbienne et politique qui est toujours présente, mais en parallèle, d'autres groupes, donc en France en tout cas, la naissance des mouvements queer, le courant des mouvements qu'on va qualifier plus tard de LGBT qui vont être plus liés à la question de la lutte des droits. Et c'est ces mouvements-là qui vont porter la question du droit, la question du mariage, la question d'abord du PACS, la question ensuite de la PMA. Et donc qui correspondent, je crois, à des enjeux de définition culturelle et politique différents. Du coup, qui ne portent pas les mêmes identités collectives non plus. Moi, je qualifierais bien, je pense qu'il y a au moins trois types de mouvements différents. Un mouvement lesbien politique, un mouvement LGBT, un mouvement queer. Et à l'intérieur, donc, plus de ces mouvements, il y a des approches différentes. Par contre, ce dont on parle...
Je reprends ma question initiale. Est-ce que certains de ces mouvements auraient été renforcés par l'acquisition de nouveaux droits et d'autres affaiblis au contraire?
Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, c'est qu'on assiste depuis les années 2000 plutôt à une judiciarisation, en fait, un recours juridique pour parler de la question du politique. Aujourd'hui, être politique dans les mouvements gays et lesbiens, c'est être du côté de l'évolution des droits. Alors, bien sûr que dans les années 70, alors la gay, lesbienne ou pas, la question du recours au droit n'était pas du tout la question fondamentale, puisqu'il s'agissait de renverser les institutions majoritaires, la famille, etc. Alors que, effectivement, là, le référent, c'est la question du droit. Alors, en quoi la question des égalités de dispositifs du droit peuvent ou pas transformer les mondes sociaux en ce qui concerne la famille, les normes du couple, etc. Ça, il est difficile de le dire aujourd'hui. Et puis, en tant que sociologue, on peut pas prévoir ce qui va se passer dans 10 ans. Mais en tout cas, ça a modifié le rapport aux politiques et la définition politique.
Jérôme Courduriès, votre regard sur cette question que j'évoquais, de savoir si l'avancée des droits avait oui ou non, et comment transformer effectivement les identités sexuelles et peut-être les cultures gays, lesbiennes, LGBT, queer qu'il y a derrière?
Je pense que, bon, quand on parle d'avancée des droits, il faut faire attention à ne pas masquer tous les champs dans lesquels les droits n'avancent pas.
Bien sûr, oui.
Donc effectivement, les gays et les lesbiennes ont eu, en tous les cas ceux qui se déterminent comme étant en couple gay par exemple ou en couple lesbienne et qui aspirent à une forme d'institutionnalisation de leurs liens conjugaux ou familiaux, ont aujourd'hui l'accès au mariage et peut-être demain à la procréation assistée médicalement, c'est certainement heureux.
Rappelons, je fais une toute petite parenthèse, qu'il y aura une nouvelle loi sur la PMA pour cet été et on en attend beaucoup. Ouais. Les associations, évidemment, demandent l'ouverture de la PMA, notamment pour toutes les femmes. Ce sera évidemment l'un des grands enjeux. Je ferme la parenthèse.
Oui, ça fait au moins 5-6 ans que les gouvernements la promettent, cette loi, il est temps qu'elle arrive. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une partie de la communauté LGBTQI+, qui aujourd'hui ne parvient pas à se faire entendre. Je pense notamment aux personnes intersexes ou aux personnes qui se définissent comme trans, avec toutes les nuances que cela recouvre, et qui souffrent des dispositifs actuels qui continuent à privilégier la bicatégorisation sexuée, femme d'un côté, homme de l'autre. Voilà, donc c'est un petit rappel. Ensuite, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, ces droits acquis dans le champ de la conjugalité et de la famille contribuent à transformer de manière générale l'expérience de l'homosexualité et probablement par effet de ricochet les identités collectives. Alors après, dire plus finement en quoi ça change, ça je ne saurais trop le faire aujourd'hui, mais probablement que ce qui est le plus visible aujourd'hui, probablement c'est que le fait de se découvrir aujourd'hui gay ou lesbienne, quand on est adolescent ou jeune adulte, donne lieu à une expérience pour un certain nombre de nos contemporains, certainement différente des générations passées. Parce que les modèles sont plus variés, même s'ils ne le sont pas encore suffisamment, plus visibles, et que ça leur offre une palette disponible en termes de d'expérience biographique plus grande que par le passé. J'ose espérer que ceux-là souffriront moins qu'un certain nombre de gens qui ont pu souffrir par le passé. Même si tout le monde n'a pas souffert par le passé, bien sûr.
Juste,
Natacha Chetkouti au Sorevitz, encore un mot, puis on va accueillir un nouvel invité.
D'accord. Je me permettrai juste, Jérôme, de nuancer un peu le propos sur la pluralité culturelle gay et lesbienne. Je vais prendre un exemple. On a travaillé avec une autre collègue, Stéphanie Arc, il y a quelques années, sur une série très très populaire en France qui s'appelle « Plus belle la vie ». Et on a justement voulu voir la récurrence des personnages gays et lesbiens dans cette série, la manière dont ils étaient montrés.
Et le
couple gay qui existe maintenant depuis, je sais pas, plus de 10 ans dans cette série, il est présenté dans le quotidien, dans une vie banale, ordinaire, avec les enfants, etc. Alors que les lesbiennes sont très peu représentées. Et quand elles le sont, c'est de façon très éphémère, et soit dans des parcours dramatiques, c'est-à-dire la jeune femme qui a subi un viol, qui est anti-homme et qui a un destin terrible et qui qui vit un lesbianisme catastrophique. Alors soit sous des formes plus pédagogiques, c'est-à-dire comment on arrive à se nommer comme lesbienne, et pour ça on va s'adresser aux copains gays de la famille, etc. Ou alors, justement au moment de la PMA, il y a eu la présentation d'un couple, mais en fait, le couple n'existe plus, et celle qui reste dans la série, une des membres du couple, qui est très féminine, très pulpeuse, etc., est présentée comme bisexuelle, ou est maintenant hétérosexuelle.
C'est quand même, c'est intéressant dans le champ culturel. Les séries qui sont souvent le miroir de nos sociétés, pour le meilleur et pour le pire.
C'est ça.
On va s'intéresser à la patrimonialisation des minorités sexuelles. On va se demander si patrimonialiser les cultures gays, lesbiennes, queer revient peut-être à affaiblir leur capacité critique, transgressive et politique. Et pour ça, on va s'intéresser à un cas très pratique. Le 22 avril dernier, la mairie de Paris a publié un appel à projet en vue de l'ouverture d'un centre d'archives LGBT+, dans la capitale, d'ici la fin de l'année. Mais il y a des divergences qui se font jour entre la municipalité, l'État et puis les collectifs militants qui n'ont pas visiblement la même approche de ce que doit être ce centre. On va accueillir un nouvel invité, Renaud Chantraine, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant à l'HESS et au MUCEM à Marseille, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. On parlait à l'instant de Plus belle la vie, on y est. L'appel à projet Renaud Chantraine, lancé par la ville de Paris, il a pour objectif, je cite, de faire émerger la mise en place d'un centre de traitement et de valorisation des archives qui vise à jouer un rôle de tête d'un réseau des mémoires et des archives LGBTQI+. Que vous inspire ce projet de centre d'archives? Quelles sont les discussions aussi et les débats qu'il y a autour de la manière dont il convient de gérer ce centre, Renaud Chantraine?
Alors, merci pour cette invitation. Du coup, moi, je pense que ça pose une question qui est quand même importante. C'est, en fait, qui patrimonialise et qu'est-ce que patrimonialiser? Donc, peut-être par rapport à ce projet, ce qu'on peut dire sur la situation parisienne, c'est un projet qui est ancien, qui est lancinant et qui finalement va condenser une approche assez française de ce que c'est que le patrimoine, où en l'occurrence, avec cet appel à projet, on peut identifier un assemblage, on va dire, de deux acteurs qui se font face. On a d'un côté, en fait, des politiques autour de la mairie de Paris, d'Anne Hidalgo, qui suivent un objectif qui est politique et électorale, et auxquelles s'associent des institutions culturelles, donc là en l'occurrence les Archives nationales et les Archives de Paris. Donc ensemble, ce premier rassemblage tente finalement de mettre en place ce qu'on appelle une politique patrimoniale qui consiste du coup à utiliser, donc on parle de centre de tri, la communauté pour attirer des fonds qu'elle va ensuite faire, qu'elle va décrire, qu'elle va inventorier pour qu'ils soient dans un second temps versés dans les institutions publiques.
Alors qu'est-ce qui pose problème? Qui pose problème, en tout cas pour une partie des militants LGBT+, dans cette manière de patrimonialiser ces minorités sexuelles?
Il y a un ensemble de problèmes. Peut-être le premier problème, c'est que c'est une manière en fait d'externaliser à bas coût, on va dire, une mission de service public. D'écrire un inventorier, normalement, c'est le travail des institutions publiques. C'est aussi une manière, quelque part, c'est ce qu'on pense, de prendre le contrôle finalement sur des archives qui échappent pour l'instant à la puissance publique. Donc, et peut-être, du coup, c'est une manière de les dépolitiser.
Pourquoi c'est une manière de les dépolitiser? En quoi ça les dépolitise?
Parce que la communauté finalement n'a plus le contrôle de ces archives. Mmh, c'est-à-dire que les critères qui vont être appliqués aux archives qui vont rentrer ou non, c'est des critères qui sont définis par les institutions. Qu'est-ce qui est patrimonial ou qu'est-ce qui est pas patrimonial, c'est pas la communauté qui le décide, c'est l'institution. C'est-à-dire que potentiellement ça va mettre de côté tout ce qui ne rentre pas dans les icônes, ce dont vous parlez tout à l'heure, les grandes figures, et tout ce qui est les petites associations, les anonymes, les manifestations, les bars, les collectifs éphémères, c'est-à-dire tout ce qui font la texture finalement des luttes et des constructions identitaires et militantes de cette communauté. On sait pas exactement ce qu'il en adviendra. Par ailleurs,
je pense qu'on a bien compris effectivement cette forme de dépossession et donc de dépolitisation. Peut-être que c'est intéressant, Renaud Chantraine, de regarder comment ça se passe ailleurs, parce que vous êtes intéressé à d'autres cas, à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Je voudrais qu'on commence par les Pays-Bas qui me paraissent vraiment particulièrement intéressants, et si on a le temps, on parlera de l'Allemagne. Aux Pays-Bas, il y a un centre d'archives et de documentation LGBT qui s'appelle IHLIA Homodoc. Racontez-nous quand, comment, dans quel contexte il est créé et comment ça fonctionne, parce que peut-être que c'est intéressant de s'inspirer de ce modèle-là.
Tout à fait. Bah, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que globalement, il y a un contexte international entre la fin des années 70 et le milieu des années 80 où il y a une mobilisation des communautés LGBTQI par rapport à la prise de conscience de l'importance de garder l'histoire de leur lutte et d'organiser ces traces en vue de les transmettre. C'est un peu la définition de la une forme de patrimonialisation communautaire. À partir de là, on va décider de créer des centres, enfin, de rassembler des traces au sein de centres d'archives communautaires parce qu'on a fait le diagnostic que ces traces globalement sont invisibilisées, voire effacées par les institutions publiques.
Peut-être qu'il faut préciser à ce moment-là, Renaud Chantraine, que cette initiative, elle part au départ, pour ce qui est des Pays-Bas, de professeurs de l'Université d'Amsterdam. C'est pas anodin.
De professeurs, d'étudiants, enfin de passionnés. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des professeurs, c'est des personnes, des militants en fait, des professeurs, mais aussi des militants. Ils sont les deux, on peut pas séparer les deux, qui vont s'intéresser à leur propre histoire et faire le constat que c'est très difficile de faire l'histoire sans des archives qui ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas les bons mots-clés, parce qu'elles n'ont pas été collectées au sein des bibliothèques publiques, des archives publiques et des musées. Et donc, on s'organise finalement pour corriger cet effacement en créant ces centres d'archives qui permettent en fait du coup d'avoir un lien beaucoup plus direct avec la communauté, donc de faire de la collecte, de faire un travail de description des fonds, d'indexation, et de faire une transmission aussi beaucoup plus innovante finalement, beaucoup plus libre, peut-être beaucoup plus queer en fait de ces mémoires.
Mais ça se fait pas d'un coup, Renaud Chantraine. Quand on regarde, il faut dérouler les choses, c'est-à-dire que effectivement au départ, vous me corrigez hein, si je me trompe, mais j'ai compris ça en vous lisant, on est vraiment sur un fond de document finalement qui est utilisé essentiellement pour la recherche scientifique, et puis progressivement on va avoir une forme d'autonomisation, pourrais-je dire, de ce centre qui va se détacher de l'université et qui va finir rattaché à une autre entité, puisqu'elle va être rattachée à la grande bibliothèque publique. Donc ça se fait pas d'un coup, il y a vraiment une évolution.
Tout à fait, mais on est en 2019, là c'est les années 80, le contexte a qui change. Là ce qui est intéressant à Paris, c'est finalement par rapport à ce que vous disiez sur culture gay, culture lesbienne, culture LGBT, c'est que finalement tout un tas d'acteurs issus de la communauté, c'est-à-dire aussi bien des associations militantes que des professionnels, des bibliothèques et des archives, que des chercheurs, que ce soit des historiens, historiennes, sociologues, anthropologues, que des centres d'archives privés comme le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Médusa pour les archives trans ou l'Académie gay et lesbienne, qui sont les associations qui possèdent des fonds depuis plusieurs années et qui du coup savent en fait les besoins, ils sont identifiés. Les besoins ne sont pas, c'est pas possible de placer ces fonds dans les institutions publiques justement parce que ça ne répond pas à des critères de patrimonialité qui sont définis par ces institutions. Et donc, ces différents mouvances, on va dire, et positions se rassemblent pour essayer de créer un centre d'archives autonome et communautaire qui est un projet manifestement différent d'un centre de tri qui est la solution proposée par la ville de Paris.
Renaud Chantraine, encore une question, puis je vais essayer de faire réagir nos invités. L'heure tourne malheureusement, mais c'est une question qui me paraît absolument essentielle. Dans le cas de ce centre d'archives et de documentation LGBT aux Pays-Bas, qui détermine que telle ou telle chose doit, peut rentrer dans ce centre et donc devenir une archive? Sur quels critères scientifiques, culturels, esthétiques on fait le choix? Parce que c'est très important, parce que c'est comme ça aussi qu'on va définir et construire les identités culturelles qu'il y a derrière. Sur quels critères on le fait? Qui choisit?
Je vais prendre peut-être un autre exemple à San Francisco. Ce qui est intéressant, globalement, les fonds entrants sous réserve qu'ils soient documentés dans leur constitution et que le donateur puisse expliquer en fait quelle est la valeur de ce fonds. La valeur, elle est donnée finalement par le donateur en prenant en compte, bien sûr, l'institution qui va recevoir ce fonds. Gérard Koskovitch disait que ce qui est intéressant, c'est que les fonds les plus intéressants qui ont été donnés, c'est-à-dire des fonds d'anonymes, par exemple, de personnes qui ont vécu leur lesbianisme dans les années 50 et qui n'intéressaient absolument pas les institutions publiques à l'époque, sont les fonds qui, aujourd'hui, vont être le plus intéressants pour les chercheurs et les chercheuses qui consulte le centre d'archives. Donc les critères finalement de patrimonialité classique ne vont pas correspondre en fait à la valeur que ce fonds a pour faire l'histoire de cette communauté spécifique.
Je voudrais faire réagir peut-être nos invités. On va commencer par Jérôme Courduriès et puis on finira par vous si vous le permettez, Natacha Chetouki Osorovitz. Jérôme Courduriès, réaction sur cette patrimonialisation des minorités sexuelles, le cas parisien, puis peut-être le cas néerlandais qui semble être un modèle.
Je rejoins parfaitement les analyses de Renaud. Bonjour Renaud d'ailleurs. Je trouve que, comme souvent en France, on a du mal avec l'idée que ce genre d'initiatives ne viennent pas des institutions elles-mêmes de la culture, mais peuvent être instigé par les acteurs même de ces fonds. Et je trouve que, effectivement, ce qu'a annoncé la mairie de Paris est une fausse bonne nouvelle. Parce que là encore, ça va être l'occasion de, comme disait Renaud, de déposséder les collectifs qui possèdent ces fonds aujourd'hui. Et on va du coup opérer un tri entre ce qu'on juge digne, ce que l'institution juge digne de figurer dans les archives, et ce qu'on juge non digne, indigne de figurer dans les archives. Ouais. Et ça, c'est un gros problème à mon
avis. Natacha Chetkouti-Osorovitz, fausse bonne nouvelle.
Alors oui, moi j'avais une question d'abord sur la notion.
Alors la question n'aura pas le temps.
Non, d'accord. Sur la notion de patrimoine, déjà, est-ce qu'on pourrait pas inventer justement un autre terme pour parler de ce centre d'archives que patrimoine quand même, qui est un terme, on pourrait matrimoine, c'est peut-être pas terrible non plus.
C'est moi qui ai utilisé le terme patrimonialisation.
D'accord.
Le centre d'archives, c'est le centre d'archives. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a encore un nom, mais c'est un centre d'archives et de documentation.
D'accord.
C'est moi qui parle de patrimonialisation.
D'accord.
Veuillez m'en excuser.
Non, mais c'était une question ouverte. Et après, non, ce qui m'intéressait, c'était aussi le lien, je partage les deux analyses précédentes, mais le lien avec le centre d'archives et des cultures lesbiennes de Paris. Est-ce que juste, Renaud, vous pouvez nous dire s'il y a eu quand même une discussion avec eux ou pas?
Natacha Chetkouti, le problème, c'est que vous dites ça à 2 minutes de midi, avec le journal derrière, etc. On peut pas, Natacha Chetkouti Osorovitz. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va vous réinviter, parce que voilà, c'est un thème, on le voit, sur lequel il y a quantité de choses à dire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin, Natacha Chetkouti-Osorovitz. Je remercie également Jérôme Courduriès qui a été avec nous en duplex depuis Toulouse. Je remercie également les techniciens. Et enfin, notre dernier invité qu'on avait à l'instant par téléphone, Renaud Chantraine. Un grand merci à vous. Voilà, on vous réinvitera.
Avec grand plaisir.
Je rappelle que toute cette série consacrée au droit LGBT+, quatrième volet aujourd'hui, on peut la retrouver bien sûr sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.